Mais d'abord, c'est Luc Lavoie.
Bonjour Bernard.
Bonjour Luc. Alors, tu vas nous parler d'abord de la chef du Parti vert, Annamie Paul, qui a fini par comprendre le message.
Pourtant, le message était assez clair. Les résultats étaient assez clairs. Alors là, aujourd'hui, Annamie Paul, qui était à la tête du Parti vert, puisqu'elle a démissionné aujourd'hui, son passage a été assez éphémère. Moins d'un an après avoir pris les rênes de la formation, et une semaine après que ses troupes et elle-même eurent encaissé une retentissante défaite, elle a fait l'annonce qu'elle quittait son poste. Alors c'était un peu, j'ai regardé ça à la télé, ça faisait un peu mélodramatique, c'était dans un parc de Toronto, et puis elle a fait une déclaration qui a duré en tout 11 minutes, puis après elle n'a pas voulu répondre aux questions, puis là elle a expliqué, après avoir pris sa décision, après avoir reçu, elle dit, c'est à cause d'un... Si je décide aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un courriel du parti, donc son parti annonçant le déclenchement imminent d'une révision de la direction du parti. Elle a déterminé qu'elle n'avait plus la force de continuer à survivre aux attaques, aux conflits.
Moi, je trouve ça... Aux attaques de son propre camp, là, c'est ça qui est
absolument,
important. Là,
absolument,
mais elle a été, honnêtement, Paul, excuse-moi, Luc, elle a été mauvaise, là. Elle n'a pas été
mauvaise. À la tête du parti, elle a été absolument affreuse. Elle a trouvé moyen d'avoir, écoute, le Parti vert, donc quelque chose qui est motivé par l'écologie,
oui,
n'est-ce pas?
Ben oui.
Alors, ben, le parti a failli éclater sur une querelle intestine sur le conflit israélo-palestinien. Tu vois le genre, là? Alors,
Quelle déception, Luc. Parce que, honnêtement, là.
Moi, je trouvais que c'était une bonne chose qu'il y ait un Parti vert dans
le
débat.
Moi aussi. À l'heure où, justement, le climat est une grande priorité de plein de gens, elle aurait dû faire campagne là-dessus, puis honnêtement, juste là-dessus, puis dire, elle était sur tout le reste, elle était sur le racisme systémique, puis les patentes à gosses, puis alors tu te dis, concentre-toi donc sur ta raison d'être, c'est-à-dire l'environnement, le climat, et je suis certain que si elle avait fait ça, il y a plein de gens qui auraient dit, c'est ça, moi, ma priorité, le climat, puis je vais voter pour le parti qui m'en parle le plus, c'est-à-dire le Parti vert.
Absolument. Et elle a été catastrophique face aux Québécois, catastrophique face au Canada anglais. Ça a été vraiment là affreux dans le débat avec Yves-François Blanchette. On parle beaucoup de la première question, là. Mais à un moment donné, elle avait dit, c'est le temps que je vous éduque.
I
need to educate you.
Non, puis, c'est m'a envoyé dans un camp de rééducation sur le racisme systémique, justement. Puis elle a dit l'espèce de condescendance dont elle était capable, toute la supériorité morale dont elle était capable.
Ah, c'était affreux parce que t'as vu que Yves-François était un peu déstabilisé, s'attendait pas à ça.
Ben oui.
Puis il a dit, pourquoi vous avez recours aux insultes ou enfin, pourquoi vous allez aussi loin? Puis elle dit, parce que, elle répète, I just want to educate you. Je veux t'éduquer. Et monsieur, Seigneur, alors, ça a donné des choses merveilleuses, cette chef-là. Sous sa houlette, le parti a chuté dans les appuis, passant de 6,6% en 2019 à 2,3% en 2021. Elle-même, elle s'est portée candidate dans un comté qu'on croyait possible pour eux. Elle a fini avec 8% des voix. Comme a dit, elle n'a même pas sauvé son dépôt.
C'est une catastrophe ambulante.
Puis au Québec, on est à 1,5% des voix.
Puis au Québec, là, t'en as une clientèle pour les Verts.
Oui.
T'en as une clientèle pour le Parti vert, sauf que elle n'a pas fait campagne là-dessus. Elle s'est éparpillée sur toutes sortes d'autres sujets, on le dit amplement. Tellement que l'aile québécoise des Verts a sorti sa propre plateforme électorale sans même consulter la chef.
Ah, ils l'ont même pas avisé, c'est assez extraordinaire.
Mais
tu sais, la personne qu'il va falloir qu'elle s'explique un jour, c'est Elizabeth May. Elle a fondé ce parti-là, elle en a été l'unique représentante, elle a participé au débat des chefs.
Elle a été réélue, elle fait partie des deux députés verts élus, là.
Elle a été réélue, elle avait une relative... Elle avait une bonne image, je pense, Elizabeth May. Sympathique. Avec un sens de l'humour aussi. Mais c'est elle qui a tout patenté, ce qui vient d'arriver. Elle a choisi cette Annamie Paul. Elle l'a pris sous son aile. Elle a tout fait pour qu'elle prenne le leadership. Puis là, ben voici ce qui est arrivé. Quand tu t'en vas dans des espèces d'aventures utopiques, là, t'sais, nous, de la gauche, puis les affaires, puis...
Alors, tu dis qu'Elizabeth May a des comptes à rendre, toi, là.
Ben absolument. Pourquoi son parti Elle a travaillé fort pour le bâtir, elle a travaillé fort pour le maintenir, et puis elle fait cette gaffe-là, elle nous amène, elle nous fait, enfin, aux militants du parti, elle leur fait bouffer cette espèce de je sais pas comment dire.
Honnêtement, c'est une femme qui a sans doute des grandes qualités, Mme Paul, mais elle n'est pas faite pour la politique.
Elle n'est pas faite pour la politique.
Bon, par contre, il y en a une qui était faite pour la politique, c'était Angela Merkel, 4 mandats comme chancelière, une femme exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Luc, hein, on s'entend là-dessus, toi et moi.
Ah oui, tout à fait exceptionnel. Hein? Autant dans le fond que la forme. Ouais. Parce que j'aime bien parler de la forme dans son cas. On est en Occident, puis on est toujours en train de formater nos politiciens pour qu'il y ait l'air de ci et ça. Alors que Angela Merkel, c'était quelqu'un qui faisait elle-même son épicerie avec son mari. Quand elle avait un moment de repos, elle allait faire un pique-nique dans un parc. C'est vrai, tout ça.
Elle est restée authentique.
Complètement authentique. Ouais. Une femme qui, faut s'en rappeler, qui a grandi en Allemagne de l'Est.
En Allemagne communiste, oui, absolument.
En Allemagne communiste, mais qui avait fait quand même des études très avancées. Elle détenait un doctorat. C'était une scientifique.
Oui.
Et puis, elle est arrivée comme ça, tout doucement, au sein du parti. Puis, à un moment donné, Helmut Kohl, qui est celui qui avait réussi la réunification allemande, est tombé dans un scandale là, qui l'a obligé à démissionner. Et Angela Merkel est arrivée. Mm. Les gens se disaient, c'est qui ça?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait là, elle?
Ah non, puis il a traité de tous les noms, là.
Ah oui,
tu sais,
oui,
puis
oui,
je
oui.
le dis en tout respect parce que ça a été utilisé amplement par les Allemands eux-mêmes. Mais le qualificatif le ressemblait à c'est qui cette matante-là, là? C'était un peu quand. Il y en a beaucoup qui l'apercevaient comme ça. Sauf que elle s'est imposée par son intelligence, par son style de leadership.
Et par son sens politique.
Vraiment,
Puis elle a démontré une audace et un courage à des moments où je suis convaincu que tous ses conseillers lui disaient « Non, fais pas ça. » Par exemple, quand tout le monde voulait bloquer l'entrée aux Syriens qui s'en venaient en marchant vers l'Europe, elle a dit « Non seulement il faut en accepter plus, je vous annonce qu'on en accepte 1 million en Allemagne.
Ouais. »
Alors, ça a donné quoi? Ça a donné que c'est effondré, pas complètement, mais sérieusement dans les sondages.
Puis ça a donné naissance à
l'extrême droite.
Parti d'extrême droite. Je suis pas sûr qu'Angela Merkel, si c'était à refaire, en prendrait 1 million, Luc.
Je sais pas si c'était à refaire, peut-être pas. Fait est que je peux pas nier, et tu ne peux pas nier non plus, que ça prenait une audace hors du commun.
Ça prenait du courage.
Angela Merkel, il faut savoir dans sa personne que elle avait comme internalisé ça, c'est en anglais de dire ça. Elle avait...
Intégré
dans sa pensée, dans ses émotions, cette espèce de culpabilité qui habite l'Allemagne d'après-guerre. En d'autres mots, en Allemagne, tu sais, ils pouvaient pas être les vrais leaders de l'Europe jusqu'à tout récemment.
À cause de leur pensée nazie, oui.
À cause de leur pensée nazie. Elle a pas nié... Elle a pas, de toute façon, son père était un pasteur luthérien.
Oui.
Alors, elle a pas eu affaire à ça comme tel, mais elle est quelqu'un qui était constamment consciente. Et la foi du 1 million de réfugiés, il faut se rappeler qu'elle disait, après ce qu'on a fait, nous, c'est à notre tour de faire quelque chose.
Elle a dit ça.
Oui, absolument.
En tout cas, chapeau. Puis là, il y a eu des élections.
Son parti, qui est le parti... comment dire, on appelle ça au Canada, naturel de pouvoir en Allemagne. L'ancien, je pense qu'il porte plus le nom de démocratie.
CDU, chrétien démocrate, je pense encore.
Ils utilisent encore, je pensais qu'il l'a fait disparaître, CDU. Mais en tout cas. Alors, ils ont perdu l'élection, mais on parle ici là, de perdre par un petit morceau. Mais c'est la gauche qui monte. La gauche qui était complètement au sol a commencé à monter. Et il faut savoir qu'en Allemagne, à cause de leur constitution, de leur système de votation et tout, les gouvernements sont toujours des gouvernements de coalition.
Oui.
Toujours, toujours. Il n'y a pas eu un seul gouvernement majoritaire depuis la création de la République fédérale allemande. Alors, les négociations s'entreprennent très aujourd'hui pour voir comment on va bâtir une coalition. Ça a tendance à prendre du temps. En Allemagne, ça prend des 5-6 mois avant que tu aboutisses. Mais là, cette fois-ci, on pense que ça pourrait aller plus vite. Et on en a beaucoup besoin parce que l'Europe traverse une période assez, effervescente, appelons ça comme ça.
Oui, il y a beaucoup d'instabilité dans le système. Ce qui nous amène rapidement, Luc, à ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est quand même pas banal, là.
Ben là, ils ont voulu le Brexit, c'est-à-dire se retirer de l'Europe, puis là, ils sont en train de voir c'est quoi les conséquences de ça. Là, la conséquence directe, c'est que t'es plus capable d'avoir d'essence ou tu vas faire la file pendant des heures. Pourquoi? Parce qu'il y a plus les chauffeurs de camions qui amenaient les choses en Angleterre, en passant par le tunnel, hein, ça, c'était des Européens, c'était pas des... Ils avaient un passeport européen, c'était donc des gens qui étaient natifs d'un pays européen.
Ouais.
Mais là, avec le Brexit, là, il s'est redevenu une frontière nationale, l'Allemagne, pas l'Allemagne, l'Angleterre, je veux dire. Mm-hmm. Tu rentres plus là comme à l'époque de l'Union européenne.
Ouais.
Alors, ce qu'on a devant nous, c'est ce morceau-là de la crise, puis après, ils ont un problème d'approvisionnement dans je ne sais combien, tu sais, dans la restauration. Ils sont plus capables de trouver, enfin, les organisations médicales qui sonnent l'alarme, parce que là, on a de la difficulté à faire déplacer les soignants. Le Brexit, ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Et voilà.
Ils sont en train de vivre avec. En train de vivre avec les contre-coups. Bon, c'est sûr, il y aura un processus de transition. Éventuellement, ça va se résorber, mais entre-temps, ils payent un prix pour la sortie de l'Union, c'est clair.
Ouais,
c'est
puis
clair.
Il va y avoir un prix permanent aussi. On verra à longue, mais je pense qu'il va y avoir un prix permanent aussi.
En tout cas, entre-temps, il manque de camionneurs, comme tu dis, et donc il manque d'essence, notamment d'essence. Luc, on se reparle demain, mon gars.
Avec plaisir. Salut.
Salut, salut. On s'en va à la pause. Au retour, on revient sur cette histoire d'une infirmière, donc à bout de souffle, qui voulait revenir dans le réseau public. Et malheureusement, le réseau public n'a pas l'air de vouloir lui faire de place.